Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous attendons également vos appels en direct, le 001 202 619 31 40, 001 202 619 31 40. On va passer une grande partie de notre émission à parler de Mohamed Ali, la star, évidemment, le grand boxeur. Ali Boumaïé, comme on chantait évidemment à Kinshasa, le boxeur est décédé la semaine dernière à l'âge de 74 ans. Il a ainsi perdu son dernier long combat, celui contre la maladie de Parkinson contre laquelle il souffrait. On va en parler avec vous, chers auditeurs, mais on va en parler également avec nos invités cette semaine. On va d'abord accueillir l'équipe habituelle, notre consultant Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Thierry Kamboundi, notre station partenaire à Kinshasa, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également le président de l'Association des journalistes sportifs congolais. Il se trouve à Kinshasa, il s'appelle Kabbala Mwanambouyi. Bonsoir.
Bonsoir Pino, bonsoir.
Voilà, et dans un instant, nous aurons un autre invité hein, qui a assisté évidemment au combat. Il s'appelle Daniel Nkoussou, c'est un chirurgien congolais. Il se trouve actuellement au Cameroun. Bonsoir Daniel.
Bonsoir.
Alors messieurs, on va évidemment revenir hein, sur la carrière de Mohamed Ali. Mohamed Ali qui, je le répète, est décédé évidemment. 32 ans de combat contre la maladie de Parkinson. Sa famille a annoncé sa mort vendredi soir. Ses obsèques auront lieu ce vendredi à Louisville. C'est dans le Kentucky, ici aux États-Unis. On attend beaucoup de monde. Le président Obama qui envisage peut-être d'y aller. Le président turc Erdogan qui va faire le déplacement pour assister à ses obsèques. Un événement mondial pour un grand champion qui s'est illustré dans le sport. Évidemment, à Kinshasa, ce combat mythique, on va y revenir tous ensemble. Mais également, et c'est important ici aux États-Unis, sur la question des droits civiques, évidemment, Mohamed Ali a été un porte-parole, un porte-drapeau pour les Noirs américains ici aux États-Unis. On va refaire évidemment hein, sa vie ici ce soir dans Sporama. On va poser la question au doyen de l'émission, Jules Valentin Goué. Jules Valentin, vous êtes à Libreville. Que représente pour vous Mohamed Ali?
Mohamed Ali, pour nous, représente toute une époque, c'est notre jeunesse, c'est les grandes convictions des années 70 où le laisser pour compte pensait que le monde allait changer en quelques années. Le porte-parole, c'était Mohamed Ali. Mais Mohamed Ali, c'est d'abord le sportif, un sportif hors pair qui, ma foi, a donné à la boxe ses lettres de noblesse. Avant lui, la boxe était un combat de gladiateurs. Lui, il a transformé en un art et après lui, la boxe est devenue un simple sport. Je crois qu'il y a tellement à dire sur Mohamed Ali que nous verrons plus que la soirée peut-être pour en parler.
Et oui, évidemment, hein, Mohamed Ali, hein, multiple champion, notamment champion WBA en 1964 en battant Sonny Liston, hein, KO au 7e round. Il s'appelait à l'époque Cassius Clay, on l'oubliera pas. Thierry Kamboundi, vous êtes évidemment à Kinshasa, Top Congo FM. Alors évidemment, vous êtes un peu plus jeune que certains des invités de l'émission ce soir. Mais pour vous aussi, évidemment, Mohamed Ali, hein, c'est un sportif incontournable. Hein.
Un sportif incontournable que je n'ai pas eu l'occasion de voir sur un ring, contrairement à mon aîné et président Pierre-Célestin Kabbala Mwanambouyi que je salue. Et je suis fier de partager ce plateau, ce débat avec lui. Lui, il a vécu le combat, il sait mieux que moi ce qu'était Mohamed Ali, mais comment passer, comment une histoire d'un artiste, d'un sportif de si haut niveau qui a marqué le noblard peut passer inaperçu pour un journaliste comme moi qui ai eu à lire, à écouter, à suivre régulièrement au fil des années ce qu'était Mohamed Ali. Et cela, bien évidemment, a resté gravé dans ma mémoire comme dans celle de tous les Congolais qu'il a eu à marquer à l'époque en 1974 à travers le combat du siècle. Donc je ne l'ai pas vécu, J'ai beaucoup, beaucoup entendu parler de lui et il a autant que vous, autant que tous ceux qui suivent ce débat, marqué véritablement l'histoire de cet art, de cette discipline.
Évidemment, hein, le combat de la jungle, Rumble of the Jungle, le combat du siècle, vous l'avez dit à Kinshasa. On a la chance d'avoir des témoins visuels de cet événement, évidemment. C'était à l'époque le Zaïre, évidemment, l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Le maréchal Mobutu était à l'époque au pouvoir à Kinshasa. On va en parler avec le président des journalistes sportifs congolais, Kabala Mwalambuyi. Alors, vous étiez sur place. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire l'ambiance dans le stade ce soir-là à Kinshasa ?
Bien, Yves, c'était une très grande ambiance, une ambiance festive, effectivement, mais une ambiance chargée également de beaucoup de motivation. Au plan sportif, tout à fait, mais également au plan politique. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, le président Mobutu venait de changer l'appellation du pays, du Congo démocratique, en République du Zaïre, et qui venait également de prononcer un discours sulfureux à la tribune des Nations Unies, où il avait décrié le reste du colonialisme à travers le monde et ce qu'il avait également appelé la traite des nègres et également condamné le fait que pour la guerre qu'il y avait entre Israël et l'Égypte, eh ben, il avait prononcé une phrase qui est restée historique en disant « entre un frère et un ami, le choix est clair ». Et qui venait de choisir l'Égypte comme son frère. Et c'est en ce moment-là que, également, Mohamed Ali venait de sortir de la prison et qui venait de traiter un programme en se convertissant à l'islam et qu'il allait à travers le Moyen-Orient saluer ce qu'il appelait également ses frères de sang et parce que il avait refusé de combattre au Vietnam et que désormais il devenait le défenseur de la dignité de l'homme noir. Voilà deux politiques qui se croisent, le recours à l'authenticité et le combat de Mohamed Ali qui décide finalement à Kinshasa qu'il avait appelé le retour sur la terre de ses ancêtres.
La terre de ses ancêtres. Alors, Kabala, pardon de vous interrompre parce qu'on va parler aussi du combat. Ça, c'est tout le contexte qui est évidemment important à l'époque. Mais j'aimerais qu'on parle du combat, de l'ambiance dans le stade. On va poser la question à un autre témoin de l'époque, hein, le docteur Daniel Koussou. Daniel, vous étiez également dans le stade ce soir-là. Pourriez-vous nous parler du combat ?
Bon, je n'étais pas dans le stade. J'avais autour de 11 ans. J'étais dans la rue à côté du stade.
Ok, allez-y.
Alors, ce que j'ai vu, c'était la première fois, il y avait un défilé. Je vais vous décrire, vous voyez les camions remorques. Les camions remorques ont été abîmés tels que la carrosserie était couverte, il y avait des musiciens de la fanfare. Et les camions remorques étaient abîmés jusqu'à la hauteur des pilets, tels qu'on ne voyait pas le goudron. Et nous, à cet âge-là, on croyait que c'était des monstres. Des monstres qui défilaient. Ça, c'était à la veille. Et le lendemain, quand nous devions aller à l'école, j'étais encore au séjour. Il y a une forte pluie. Donc, à 7 heures du matin, donc après le combat, la ville, le soleil avait disparu. C'était devenu comme la nuit. Et une pluie s'était abattue à Kinshasa jusqu'à ce que les bâches même des voitures s'est déchirées. Et je me rappelle qu'en ce moment-là, tous les gamins qui nous étions à Kinshasa, nous nous étions transformés en boxeurs. Partout, dans toutes les rues, tout le monde sautait à la corde comme le faisait Mohamed Ali. Mais je me rappelle aujourd'hui que Mohamed Ali il a rejoint le recours à l'authenticité qui avait prôné le président Mobutu. Je crois que même le changement de son nom, de Cassius Clay à Mohamed Ali, correspond pratiquement à l'époque où Mobutu avait changé le nom du Zaïre, du Congo en Zaïre, le nom des Blancs en nom africain. Donc j'étais là et j'étais une ambiance terrible.
Alors Daniel, on va reposer la question à Kabala Mwalambuyi de l'Association des journalistes sportifs congolais. Vous étiez dans le stade, alors racontez-nous au moment finalement du chaos, évidemment, entre Foreman et Mohamed Ali.
Évidemment, j'étais jeune reporter sportif, 27 ans.
Vous êtes toujours jeune, vous êtes toujours jeune.
Loin de Belinda, la femme de Mohamed Ali, et George Foreman sur le ring. Et moi, j'étais tout à fait à côté de Joe Frazier, Ken Norton et d'autres champions du monde. Et j'étais autour du ring, j'ai vécu en tant que membre du comité d'organisation et membre de la commission presse de cette organisation. J'étais là.
Et alors justement, racontez-nous dans le stade, comment ça s'est passé juste après le chaos justement ?
Formidable, comme notre ami du Cameroun venait de le dire, la pluie venait de cesser. Et que c'est Ali qui entrait le premier sur le ring, au rythme de Ali Boumié, et que Foreman venait après lui assez timidement, en disant Foreman Oye. Mais c'est le grand public qui acclamait plutôt Mohamed Ali. Évidemment, tout le monde était pris de peur, compte tenu du fait que la corpulence de George Foreman était supérieure à celle d'Ali, et que les premiers coups qu'il avait déclenchés avaient fait jaser un petit peu Mohamed Ali. Les gens avaient peur, se disaient, est-ce qu'il va résister ? Et l'ambiance était formidable, étant donné que Ali relançait tout le temps le public, et c'est ce qui lui a permis d'aller au-delà de la limite de Foreman, qui ne permettait pas à ses adversaires d'aller au-delà du troisième round. Et c'est après le cinquième round, évidemment, que les gens ont pris de l'espoir. Et au huitième round, évidemment, l'arbitre mexicain Clayton, voyant que Foreman était envoyé au tapis, il avait compté jusqu'au bout et Foreman était battu par KO au huitième round. Et tout le monde voulait se jeter sur le ring, y compris moi-même, avec Lucien Chimpompou, qui était le président de la commission de presse, qui était le speaker de la soirée. Voilà ce qui s'est passé, et c'était la joie à travers tout Kinshasa. Les gens ont bu jusqu'au lendemain matin. et cela en fêtant la victoire de Mohamed Ali.
Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage, évidemment, Kabbalah. On a un appel du Tchad, Christian, qui nous appelle, un auditeur. Bonsoir. Christian, est-ce que vous nous entendez ? Alors visiblement, on a des soucis pour joindre notre ami Christian. On va revenir évidemment sur ce combat des maîtres. On rappelle évidemment que Mohamed Ali est décédé la semaine dernière. Le monde entier en parle. Cassius Clay, c'était son nom avant de se convertir à l'islam. Il est devenu évidemment Mohamed Ali, le champion que l'on connaît, malheureusement affaibli par la maladie de Parkinson. Jules Valentin Ngwe, vous le disiez, la résonance de Mohamed Ali, et vous êtes un professeur d'histoire également, donc vous connaissez bien ces questions. Mohamed Ali qui était très très impliqué sur le plan politique, notamment pour la lutte des droits civiques pour les Afro-Américains ici aux États-Unis.
Oui, il faut dire que Mohamed Ali, qui est, on le dit souvent, de mère amérindienne et qui est noire, souffrait d'un double traumatisme. Donc, il était né pour se battre pour des causes perdues. Donc, Mohamed Ali a utilisé cette agressivité relative et l'a mise dans le sport, qui était réellement sa raison de vivre, pour en fait lutter contre le système d'une manière générale. Et tous les grands champions qu'il a eu à rencontrer étaient assimilés par le public aux représentants du système, que ce soit le méchant Sonny Liston de Boru, que ce soit même le gentil Claude Patterson, encore plus Frazier qu'il traitait de Boru et d'Allemagne de d'autres hommes, ainsi que George Foreman. Et Ali, quand il se battait contre eux, c'était contre le système qui se battait, et ça lui donnait réellement du courage. Bon, on n'a peut-être pas pu insister assez sur la qualité, une certaine qualité sportive tout à l'heure, en disant que c'est un des rares boxeurs qui, à l'avance, disait comment il allait boxer. Et généralement, son entraîneur était là surtout pour le manager, mais sinon, il disait même à la presse comment il allait prendre l'adversaire et il prévoyait même les rangs où il allait le battre. Pour le combat de Kinshasa, par exemple, je vous dirais qu'on était habitué à voir Mohamed Ali figé comme un papillon, comme le disait lui-même, figé comme une abeille. Mais là, il a dit avant le match qu'il allait, et que Foreman était trop lent pour l'atteindre. Et donc, il allait le laisser cogner et il allait esquiver les coups et on a justement vu cela pendant la rencontre. Il s'est réfugié dans le corps et a trouvé le coup de Forman, l'a fatigué jusqu'au 8e rang avant de lui donner un coup d'une précision chirurgicale comme celui qu'il avait donné à celui du son lors du match de revanche où il avait battu alors que les gens n'étaient même pas encore assis dans les tribunes. Donc Mohamed Ali, c'est vraiment un génie, un véritable génie de la boxe et un homme, un personnage charismatique qui a, ma foi, servi de locomotive aux gens à la société en son époque.
Merci beaucoup Jules Valentin. Un dernier mot avant de laisser partir évidemment notre confrère Kabala Mwanambouyi à Kinshasa. Est-ce qu'on peut dire selon vous que c'est le plus bel événement sportif au monde ? Tant les gens en ont parlé, en parlent encore et encore. En tout cas, est-ce que c'est pas le plus bel événement sportif qui a été organisé en Afrique ?
Évidemment Yves Pinot, sur le plan organisationnel et même sur le plan sociopolitique, c'est le plus grand événement. Il y a eu avant cela la tournée du roi Pelé avec l'équipe Football Club Santos, mais rien, rien du tout, même la visite du pape à Kinshasa, rien ne vaut cet événement qui a fait entrer le pays dans l'histoire du monde et je crois que jusqu'à aujourd'hui, inégalé, même le passage du sommet de la francophonie, eh ben, rien ne vaut ces super combats du siècle.
Merci beaucoup Kabala, on rappelle que moi c'est Nicolas Pinot et pas Yves. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Kinshasa. Merci à notre confrère, hein, président de l'Association des journalistes sportifs congolais. On va prendre l'appel d'un auditeur, un fidèle de VOA. On est encore à Kinshasa, Alphonse Mbouaki. Bonsoir Alphonse.
Bonsoir Nicolas Pinot. En tout cas, je suis très affligé de la mort de Ali, Kassif Clair, devenu Mohamed Ali. Donc, c'est vraiment une icône qui est partie, voilà, nous le pleurons. Je l'ai connu ici à Kinshasa quand il est arrivé, comme disait Kabala Mwanambouyi, je l'ai connu à Kinshasa quand il est arrivé. Vraiment, c'est un combat que nous avons suivi. J'étais encore là, j'existais encore à cette époque-là. Alors, j'ai suivi ce combat-là à la télé, je n'étais pas au stade ce jour-là. J'ai vu lors du combat, le premier round, l'arbitre mexicain qui officiait le match-là pensait que Mohamed Ali n'allait pas tenir. Parce que Georges Foreman avait une force de fou terrible. Alors, lui, il mettait, quand vous voyez, il renvoyait au tapis ce challenger au troisième round. Mais ce jour-là, il est arrivé jusqu'au huitième round. Alors, c'était vraiment de l'inattendu à cause des stratégies, à cause de la stratégie de Mohamed Ali, qui usait de son intelligence pour pouvoir battre ce grand boxeur qui avait le titre. Donc c'est vraiment regrettable sa mort. Vraiment, nous pleurons avec le monde sportif, tous pleurent. Voilà, Nicolas Pinot,
merci beaucoup Alphonse Mbouaki, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis Kinmalebo. On rappelle que vous nous suivez là-bas sur Top Congo FM également. Vous nous suivez en FM, VOA Afrique, à Kisangani, à Goma et à Lubumbashi. On reste branché sur Sporama. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. On le disait, un sport à main un peu spécial pour rendre hommage au grand champion qu'a été Mohamed Ali, décédé à 74 ans vendredi dernier. Ses obsèques auront lieu ce vendredi dans le Kentucky. On va revenir un peu aux résultats ordinaires, on va le dire, des compétitions. Les éliminatoires de la CAN 2017 qui se déroulera au Gabon. On connaît d'ores et déjà 9 pays qualifiés pour cette phase finale qui aura lieu l'année prochaine au Gabon. Évidemment, le Gabon, pays organisateur, qui a été battu en match de préparation par la Côte d'Ivoire, Jules Valentin Ngoué.
Oui, ça c'est les malheurs du Gabon qui s'accumulent, mais ce sont en principe que des matchs amicaux. Il y a un adage qui dit que mieux vaut perdre les matchs amicaux parce qu'on sait au moins ce qu'on a encore à faire pour être performant. Bon, j'espère que l'équipe va retrouver son équilibre et surtout son équilibre psychologique.
Merci beaucoup Jules Valentin Ngoué. On va évidemment parler du Sénégal, le Sénégal qui s'est qualifié comme 8 autres équipes évidemment. On va écouter Augustin Senghor, le président de la Fédération Sénégalaise de Football.
Cette qualification est l'aboutissement de tout un travail qui a été fait en amont, en partant bien entendu des expériences passées, et où on a eu à travailler sur le profil du staff, sur le profil du joueur sénégalais que nous voulions par rapport à cette campagne. Et aussi, nous avons pu arriver, pour le moment en tout cas, à remotiver les joueurs, leur donner une nouvelle conscience, une nouvelle démarche, qui fait qu'ils ont pu faire des éliminatoires assez aboutis. Rares sont les équipes qui ont eu cette chance lors de ces qualifications-là de pouvoir gagner 5 matchs sur 5, d'être qualifié avant l'heure. Mais aussi, je pense que de plus en plus, au plan mental, on constate que des progrès énormes sont en train d'être faits par nos joueurs. Je ne me souviens pas, ou bien ça doit remonter à très longtemps, d'éliminatoire où le Sénégal a pratiquement gagné tous ses matchs à l'extérieur. Et donc, je pense que c'est cela qu'il faut magnifier. Mais je pense aussi que, parce que ça s'est passé comme ça, nous devons considérer, pour nous, que c'est maintenant que les choses commencent.
Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, au micro d'Amdinsi, notre correspondant à Dakar. On rappelle que le Sénégal est entraîné par Aliou Cissé. Alors, on va parler également du carton de ces éliminatoires ce week-end. Ça avait lieu à Madagascar, la République démocratique du Congo, qui a facilement battu 6-1 les Malgaches. Thierry Kamboundi, vous étiez sur place pour la République démocratique du Congo, qui maintenant devra battre pour s'assurer la qualification les Centrafricains qui ont dominé les Angolais.
Ils ne sont pas obligés de battre les pauvres de Bazoubangui de la République Centrafrique en septembre prochain. Un nul suffit aux Léopards pour se qualifier car ils ont 12 points dans ce groupe B alors que la Centrafrique en a 10. Donc les Léopards peuvent se contenter d'un petit nul à la maison, même si l'idéal, au vu du parcours des Léopards et au vu du match aller qui a vu les Centrafricains battre à Bangui, les Léopards 2-0, l'idéal voudrait donc que les hommes de Florent Ibenge l'emportent pour clôturer en beauté ces éliminatoires. C'était un très très bon match en province, à Mahajanga très exactement, une ville portuaire située au nord-ouest de la capitale Antananarivo. Les Malgaches avaient déjà perdu tout espoir avec 2 points en 4 sorties, ils étaient déjà éliminés. Il y avait d'ailleurs, l'équipe était composée à 99% des joueurs évoluant localement. Les Léopards étaient techniquement, tactiquement, physiquement largement supérieurs à cette modeste sélection malgache qui a pris 3 buts dans chaque partie, en première période 3, en deuxième période 3, avec notamment un doublé de Cédric Bakambu et un autre doublé de Paul-José Mpoku, le jeune joueur de Pied-Beauvérone en Serie A italienne, qui pour sa première titularisation en match officiel avec les Léopards a marqué 2 buts. Yannick Bolassie a marqué, un autre néo-international congolais, Jordan Botak, a également inscrit le 6e but. Donc les Léopards ont littéralement marché sur leurs adversaires et ils ont pris une très très belle option pour la CAN au Gabon.
On va écouter à ce propos le sélectionneur de la RDC, Florent Ibenge.
Il ne fallait pas attendre forcément la deuxième mi-temps pour prendre l'avantage, il fallait attaquer tout de suite. Et vous avez vu, dès l'entame du match, on a pris le ballon, on l'a mis dans le camp adverse. Donc on le souhaitait vraiment, on voulait mettre la pression tout de suite pour pouvoir étouffer cette équipe le plus vite possible et être tranquille déjà dès la mi-temps.
Après la courte victoire de l'Europe au match aller à Kinshasa, attendez-vous que l'équipe nationale fait à quel score?
Le score, on ne peut pas le dire, mais on venait ici avec la ferme intention de l'emporter, oui. Ça c'est clair, on avait travaillé, on voulait gagner, mais un score, on ne peut pas le prédire à l'avance. On savait comment il fallait jouer cette équipe, même si elle était complètement remaniée, beaucoup des joueurs qui ont joué au match aller, mais nous on a conservé notre dispositif.
Florent Ibenge, le sélectionneur de la République démocratique du Congo, au micro de Top Congo FM. On va parler également d'une autre équipe, cette fois-ci qui est éliminée. C'est le Sili National de Guinée. Après le départ et la déconfiture de Luis Fernandez, qui ne sera pas vraiment resté longtemps et dont on ne gardera pas de meilleurs souvenirs, évidemment, à Conakry, le Sili National est éliminé. Pour en parler, un auditeur nous a appelé, Daouda depuis Conakry. Bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors Daouda, vous nous dites vous êtes désolé évidemment de cette élimination. Qu'est-ce qui vous a déplu finalement? Parce que c'était très très mal engagé.
Oui, bon Nicolas, vraiment je suis très très désolé par l'élimination du Sili National de Guinée. Le match d'hier, c'était un match dont le résultat a surpris de tous les Guinéens. Notamment la Swaziland qui n'a même pas qualifié par un CAN qui vient d'éliminer la Guinée. Vraiment, tous les Guinéens sont désolés pour le match d'hier, Nicolas, vraiment.
Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Vous voulez un nouvel entraîneur étranger ou vous voulez un Guinéen à la tête du Sili?
Oui, 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 l'entraîneur là, il est là-bas par l'intérim, il n'a pas, ce n'est pas officialisé. Après le match contre Zimbabwe, vraiment, on va chercher un autre entraîneur international parce qu'il ne peut pas. La manière dont le style national se comporte actuellement, il ne peut pas gérer l'équipe parce qu'il y a de ces joueurs. Quand vous prenez le match d'hier, il y avait plus de 5 à 7 joueurs qui n'ont pas répondu à l'appel du match d'hier. Vraiment, c'est ça qui nous a mis à terre hier le match contre la Swaziland.
Merci beaucoup hein, Daouda de nous avoir appelé depuis Conakry. On va vous donner rapidement un résultat de Copa América pour vous dire que le Mexique a battu l'Uruguay 3-1, c'était hier. À suivre ce lundi, Panama-Bolivie et surtout un explosif Argentine-Chili. Et une info, c'est du cyclisme pour vous dire que le tour cycliste de la RDC a dû annuler la partie est de ses étapes, évidemment en raison de difficultés pour les avions à atterrir à Kindu, à Goma ou encore à Kisangani. Le tour cycliste, quatrième du nom, se déroulera donc surtout dans l'ouest du pays. Voilà, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier à Kinshasa, Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas à tous.
On va remercier également à Kinshasa, Thierry Kambundi, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
À très bientôt.
Voilà, merci beaucoup hein, Thierry Kambundi. On va remercier Joselle Morissin et Georges-Léonard Sagnot qui étaient à la mise en onde. On va remercier également Maëlys Hegel à la préparation de cette émission. On va faire un petit coucou à François Djekombe qui nous écoute depuis N'Djamena. Nicolas Pinault était à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.